Malachie, chapitre 1, à partir du verset 6. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Et puis, vous me demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur, serait-il content de vous? Vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? Demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations, et partout en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous m'outragez lorsque vous dites « La table du Seigneur est méprisable, et ce qu'elle nous rapporte en aliments est vraiment dérisoire. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez !» déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades, ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les accepter de vous? Demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un beau mouton, un mâle, et le promet par vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les nations me craignent. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous, et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes, et puis l'on vous emportera au dehors avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui ai donnés pour qu'il me révère, et il m'a révéré. Il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous êtes écarté du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple. Puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à garder ce texte devant vous. Depuis un an, il y a eu des travaux sur l'immeuble là où on habite, et régulièrement, l'architecte est passé pour regarder le travail des ouvriers. Et parfois, il les a félicités d'avoir fait un très bon travail. À d'autres moments, il a dû signaler où en fait les travaux n'ont pas été faits selon les plans, selon ce qui a été demandé. Ici, dans le livre du prophète Malachie, Dieu parle à son peuple, les Israélites, après le retour de l'exil. Et Dieu se tourne vers un groupe de personnes particuliers, les prêtres, et il évalue leur travail selon ce qu'il leur a demandé de faire dans la loi de Moïse. Malheureusement, le verdict n'est pas très positif. En fait, c'est fortement négatif. Il dit au verset 6, « Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas ?» Et puis vous demandez, « En quoi t'avons-nous méprisé ?» Dieu dit, « Vous m'avez méprisé. » Et les prêtres ne semblent pas savoir en quoi ils ont fait du mal. Il se demande, mais en quoi avons-nous fait cela? Et donc Dieu est obligé de leur expliquer en détail. Et il se peut qu'à la première lecture, on se dit, mais cette situation est tellement éloignée de notre vie. Mais écoutons bien ce que Dieu a à dire, parce que nous verrons qu'il y a beaucoup qui est pertinent pour nous aujourd'hui. Dieu a un double reproche à faire aux prêtres. Vous m'avez méprisé, il dit, d'abord par vos sacrifices indignes, et ensuite par un mauvais enseignement et un mauvais exemple. Et donc, regardons ces deux reproches. D'abord, les sacrifices indignes. Les versets 7 et 8 du premier chapitre. Vous apportez sur mon autel des aliments impurs. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? Verset 8, quand pour le sacrifice vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Dans la loi de Moïse, Dieu a demandé au peuple de faire différents types de sacrifices pour différentes raisons. Mais une chose était claire, ce qu'on donnait à Dieu devait être sans défaut. Quand on donnait un mouton en sacrifice, ça devait être une bête en bonne santé, et non pas une qui était aveugle ou boiteuse ou malade. Et Dieu a même dit que offrir un tel animal, c'était une abomination. Pourquoi? Parce que cela montre du mépris pour Dieu. Si on a un troupeau de 100 moutons et on doit donner un en sacrifice à Dieu, qu'est-ce que ça révèle sur notre attitude si on choisit de se débarrasser de la bête qui a la moins de valeur? Dieu ne mérite-t-il pas le meilleur? Mais les prêtres ont décidé d'abandonner cette exigence et de sacrifier n'importe quel animal. Et Dieu dit à la fin du verset 8, « Est-ce que vous ferez ça pour votre gouverneur, donc le chef, le dirigeant de votre région, celui qui a l'autorité sur vous, si vous l'invitiez à manger chez vous, est-ce que vous oserez lui donner à manger ?» la viande d'un tel animal, et puis demander son aide? Pas question. Mais c'est ce que vous faites à moi, dit l'Éternel. Et on a l'impression que le travail des prêtres, au lieu d'être un privilège de pouvoir servir Dieu de cette manière, est devenu une corvée. Ils n'aiment pas servir Dieu au temple, ils se plaignent que même la viande des sacrifices qu'ils ont le droit de manger n'est pas bonne. Si on regarde les versets 12 et 13 du premier chapitre, mais Vous m'outragez lorsque vous dites la table du Seigneur est méprisable et ce qu'elle nous rapporte en aliments est vraiment dérisoire. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez. Dieu dit que dans ces conditions, ce serait mieux d'arrêter les sacrifices carrément, plutôt de continuer d'une manière qui montre du mépris pour Dieu. C'est le sens du verset 10 quand il dit ben, « Quand est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va fermer les portes du temple? Je préfère que ça s'arrête. » Ça aurait été vraiment choquant pour les gens qui ont participé à la reconstruction du temple d'entendre cela. Mais c'était la vérité. Les sacrifices indignes sont totalement inutiles. Ils sont un insulte à Dieu. Et puis Dieu fait un contraste surprenant au verset 11. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations. Et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Bien que son peuple Israël le déshonore actuellement par des sacrifices indignes, à l'avenir, Dieu dit, les gens de toutes les nations vont m'honorer par des offrandes pures, et ma renommée sera très grande partout. Dieu leur donne un petit aperçu de son plan et ça souligne la honte d'Israël qui, bien qu'étant son peuple, ne l'adore pas comme il convient. Donc ça, c'est le premier reproche que Dieu dirige vers les prêtres. Et le deuxième, c'est concerne leur enseignement. Regardez le verset 4 du chapitre 2. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui ai donnés pour qu'il me révère, et il m'a révéré, il tremblait devant moi, sa bouche dispensait un enseignement vrai, et on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Verset 7. Car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Verset 8. Mais vous, vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Lévi, c'était la tribu que Dieu avait choisie pour faire le service au tabernacle et puis au temple plus tard. Et à l'intérieur de la tribu de Lévi, c'était les descendants d'Aaron, le frère de Moïse, qui était prêtre. Et Dieu a décrit ce choix comme une alliance avec Lévi, avec des privilèges et avec des responsabilités. Les prêtres devaient enseigner les peuples et être des modèles, des exemples pour le peuple, pour les détourner du péché. Verset 7, le prêtre est celui qui étudie la parole de Dieu afin de l'apporter au peuple pour sa bénédiction, pour son bien. Et Dieu dit, bah, les prêtres du passé, ils ont fait cela. Mais vous, vous vous êtes détournés. Vous n'enseignez plus la parole de Dieu fidèlement. Et vous avez fait tomber beaucoup dans le péché. Ce n'est pas simplement leur enseignement, mais aussi leur comportement. Verset 9. Alors de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites. C'est leur vie, et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Les prêtres ont décidé de modifier leur enseignement selon la personne qu'ils ont en face, de montrer de la partialité. Ils ne disent pas les mêmes choses à tous. Et Dieu compare l'enseignement et l'exemple des prêtres avec ce qu'il a prévu au début. Et il dit, vous vous êtes détournés de cette alliance, de cet accord. Vous l'avez rompu carrément, l'alliance que j'ai faite avec Lévi. Et on voit que ce thème de l'alliance et la fidélité ou l'infidélité traverse ce livre. Et donc Dieu a expliqué ce qui ne va pas chez les prêtres, leur sacrifice indigne et un enseignement et un exemple mauvais. Et au milieu de ces reproches, nous trouvons un avertissement solennel. Chapitre 2, versets 1 et 2. « Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. » Dieu dit aux prêtres, « Écoutez, prenez à cœur ces avertissements, ces reproches, repentez-vous et changez d'attitude, changez de comportement pour m'honorer comme je le mérite. » Dieu, dans sa grâce, avertit les prêtres, mais s'ils n'écoutent pas, il va envoyer sur eux une malédiction. Et vos bénédictions, verset 2, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Il dit qu'il va changer leur bénédiction. Quand les prêtres étaient censés bénir le peuple, il va changer cela en malédiction. Et puis au verset 3, il décrit à l'aide d'une image très choquante, très forte, ce qu'il fera aux prêtres s'ils ne changent pas. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes, et puis l'on vous emportera au dehors avec eux. Quand les prêtres ont sacrifié un animal, ils étaient censés prendre certaines parties, comme la peau, les entrailles et les excréments, et les brûler. brûler dehors. Et là, Dieu dit que son jugement, s'il ne change pas, ce serait de jeter les excréments de leur sacrifice au visage, en leur rendant totalement sales, impurs, et puis qu'ils seront emportés, tout comme les parties impures des animaux qui sont jetés et brûlés. C'est ce que les prêtres risquent de devenir. Des ordures qui sont bons à jeter. Être sous la malédiction de Dieu, ce n'est pas une blague. Et c'est un avertissement que les prêtres doivent prendre au sérieux. Mais c'est également un signe de la grâce de Dieu qui les avertisse et qui ne permettra pas aux prêtres de continuer de le mépriser. Alors, comment appliquer un tel passage à nous aujourd'hui? Dieu a donné ce message à son peuple Israël et aux gens avec une responsabilité particulière, les prêtres, à un moment spécifique de leur histoire. Mais quel est le lien avec notre situation d'aujourd'hui? Une première étape, c'est reconnaître que Jésus est celui qui accomplit en lui-même tout ce que les prêtres étaient censés être. En mourant à la croix, Jésus a offert le sacrifice parfait, une fois pour toutes. Il était l'agneau pur et sans tache, le seul homme qui n'a jamais péché, mis à mort bien qu'étant innocent. Jésus était également l'enseignant parfait de la parole de Dieu, la parole incarnée. Plénitude de grâce et de vérité. Sa vie était exemplaire. Il était un modèle pour ses disciples. Donc en fait, toutes les critiques que Dieu adresse aux prêtres nous aident à voir d'autant plus clairement la perfection de Jésus dans son rôle de prêtre, de médiateur entre nous et Dieu. Mais il y a plus parce que en Jésus, en fait, chaque chrétien est appelé prêtre. L'apôtre Pierre dit, et il écrit dans sa première lettre, chapitre 2, verset 9, en écrivant aux chrétiens, « Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien. » Et nous trouvons la même chose au début du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, donc des prêtres, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Pourquoi les chrétiens sont-ils appelés prêtres dans le Nouveau Testament? Parce que nous pouvons offrir des sacrifices à Dieu. Comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 15 et 16, « Par Jésus, offrant donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom, ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide, voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Ce ne sont pas des sacrifices pour le péché, mais c'est l'expression de notre amour pour Dieu dans la louange et dans les bonnes œuvres. Ou comme Paul le dit, Romains 12, verset 1, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. » Et tout comme les prêtres étaient chargés d'enseigner le peuple la parole de Dieu, nous pouvons, nous aussi, apporter cette parole aux autres pour leur bien. Comme Paul dit, nous pouvons parler, dire la vérité dans l'amour, Éphésiens 4, verset 15. Et donc, je pense qu'il est légitime, en lisant ce texte, de nous demander de quelle manière nous pouvons agir comme ces prêtres qui ont déshonoré Dieu par des sacrifices indignes et qui n'ont pas enseigné ou vécu sa parole fidèlement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous si nous sommes chrétiens? Si nous considérons notre vie entière comme un sacrifice à Dieu, est-ce que nous vivons d'une manière qui l'honore? Ou est-ce que, comme ils ont fait la comparaison avec le gouverneur, est-ce que nous accordons plus de respect aux gens importants de notre vie qu'à Dieu? Par exemple, si je suis invité à la cérémonie des vœux du maire, est-ce que je m'habille bien? Est-ce que je considère que c'est un honneur d'avoir l'occasion de serrer la main de Monsieur le maire ou Madame le maire, avoir l'occasion de lui parler, mais rencontrer Dieu, lui parler dans la prière, on considère cela comme assez banal. Si, quand il y a plus de confinement, on invite quelqu'un chez nous, est-ce qu'on passe beaucoup de temps à tout ranger, à tout nettoyer, à passer l'aspirateur pour que tout soit nickel pour notre invité? Mais si on nous demande par exemple, de faire le ménage à l'église, on va passer le balai vite fait, on dit oui, oui, ça ira, c'est pas trop sale. Si, quand nous sortons à Paris, nous tombons sur un gendarme qui nous demande de faire double tour parce que la rue est fermée, est-ce qu'on oserait désobéir à cette personne et continuer comme si rien n'était? Mais est-ce qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire dans sa parole où nous avons choisi volontairement de ne pas obéir, de ne pas l'écouter? Est-il possible que nous accordons plus d'honneur, plus de respect aux gens dans notre vie qu'à Dieu? Est-il possible que dans notre vie chrétienne, dans ce que nous faisons pour Dieu, on choisit le service minimum et on lui donne non pas de notre meilleur, mais ce qui nous coûte peu? Est-ce que nous, comme les prêtres, nous nous plaignons que, oh, qu'est-ce que c'est fatigant d'être chrétien, qu'est-ce que c'est fatigant de servir Dieu, on ne fait pas plus par obligation, et nous nous demandons, mais qu'est-ce que ça me rapporte, finalement? Et Dieu veut que nous levions nos yeux et que nous voyons qu'il est ce grand roi, qu'il est digne d'être adoré avec tout ce que nous sommes, qu'il est digne de notre meilleur. Car tout comme il a annoncé par Malachie, en Jésus, il a fait en sorte que les gens de toute nation viennent honorer son nom et qu'il l'adore. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et Dieu vient à nous non pas avec une menace de malédiction, car c'est Jésus qui a porté notre malédiction quand il s'est fait clouer sur la croix. Lui, il a payé le prix pour toutes les fois où nous avons méprisé Dieu. Et maintenant que nous sommes pardonnés, si nous sommes en Jésus, Dieu nous invite à l'adorer avec toute notre vie, avec notre meilleur, parce qu'il est digne d'être respecté et honoré. Et il accepte notre louange et nos bonnes œuvres, non pas parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau, mais parce que nous les offrons par la foi en Jésus. Que notre familiarité avec Dieu ne mène pas à une attitude blasée, mais comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, dédié Hébreux 12, verset 28, « Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. » Père Céleste, merci de ce que tu es, ce grand roi, le Seigneur, l'Éternel des armées célestes. Et tu mérites toute notre louange, toute notre adoration. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes loin de ce que tu nous invites à faire de notre vie. Pardonne-nous. Merci de ce que Jésus a payé le prix pour toutes les fois où nous t'avons méprisé. Père, change notre cœur. Donne-nous d'être des adorateurs sincères qui prennent plaisir à t'offrir le meilleur de ce que nous avons et qui te servions avec joie, avec enthousiasme, parce que tu le mérites. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.